Alors, le titre de ma communication aujourd'hui, c'est « Trauma et textes dans l'extrême contemporain au féminin ». Parmi les nombreux textes qui peuplent le paysage littéraire français des deux dernières décennies, on constate une quantité non négligeable de récits, souvent d'ordre autobiographique et rédigés par des femmes, qui se consacrent à la représentation des expériences traumatiques ou catastrophiques où prime la souffrance et l'insupportable. Ces textes, mettant en relief diverses formes de trauma personnel, pourraient même se diviser en catégories, selon le type d'expérience vécue. Si certaines écrivaines rédigent des textes sur l'inceste, d'autres racontent l'avortement, le viol ou la violence familiale. Encore plus nombreux sont celles et ceux qui pratiquent l'écriture du deuil provoqué par la perte d'un enfant, de la mère ou des deux parents. Enfin, d'autres écrivaines racontent leur lutte pénible contre une maladie mortelle, que ce soit le cancer du sein, dans le cas d'Annie Ernaux par exemple, ou l'anorexie. Donc il existe tout un sous-ensemble de textes appartenant à l'extrême contemporain qui explore l'incidence du genre sexuel sur des expériences traumatiques. À l'exception du deuil, celles-ci sont surtout relatives à la vie des femmes et elles étaient jadis entourées de silence et de honte. Aujourd'hui, je vais analyser avec vous deux de ces textes contemporains de trauma personnel, en l'occurrence le roman autofictif « Petite » de Geneviève Brisac et le récit autobiographique « La honte » d'Annie Ernaux, afin d'en dégager certaines des stratégies discursives mobilisées pour représenter ce qui constitue effectivement un grand défi à la représentation. L'écriture du trauma personnel chez des femmes comporte toute une dimension éthique, dans le sens où elle leur offre la possibilité de changer de statut, de se transformer de l'objet de la violence et du souvenir traumatique en sujet et même en agent. Revoir ces épisodes, souvenirs et symptômes obsessifs du trauma qui les taraude, c'est les travailler, les transmuer, les reconfigurer et parfois s'en remettre, du moins en partie. L'acte autobiographique consiste alors en un faire discursif, en une écriture dotée d'une dimension performative, car la narration du trauma s'avère aussi le moyen d'agir sur sa propre vie, d'y apporter des changements et de témoigner, dans certains cas, de la violence secrète faite aux femmes. Ce qui reste à découvrir, c'est comment ces écrivaines trouvent des figures rhétoriques et les stratégies énonciatives pour narrer ce qui ne se laisse pas dire, ce qui est indicible. Autrement dit, comment représenter l'irreprésentable? Quelle est la nature du trauma qui rend son inscription si particulière, si difficile? Il existe tout un domaine multidisciplinaire nommé les études du trauma, les trauma studies en anglais, dont le développement est en plein essor depuis les années 90. Il importe de distinguer entre divers types différents de trauma, car d'après Jacqueline Rousseau-Dujardin, certains événements ont un impact social, politique, humain, en somme, plus large que d'autres. La Shoah, Hiroshima ou les génocides, ces événements collectifs et catastrophiques, où on voit le meurtre de millions d'individus, la destruction de familles, de foyers, de communautés, sont à différencier nettement des cas de violence sexuelle, de maladies graves ou encore d'expériences de deuil. Il y a donc lieu de faire la distinction entre les tragédies collectives et ce que Pamela Ballinger appelle le trauma privé, conçu par elle comme une violence intime, mais souvent répétée sur une base régulière, dans le cas de l'inceste par exemple. Bien que cette forme de violence arrive à des individus dans un espace privé, elle témoigne néanmoins d'une dimension collective, car elle est commune à un très grand nombre de femmes. C'est pour cette raison que Susan Bryson, une théoricienne féministe, conceptualise ce genre de trauma en tant que violence contre les femmes motivée par le genre sexuel, qui perpétrée contre des femmes de façon collective, même si cela n'arrive pas à toutes les femmes en même temps, dans un même lieu. Lorsqu'un événement traumatique de ce genre est vu comme privé, il est aussi vu très souvent comme insignifiant, comme un événement isolé qu'il vaut mieux oublier ou simplement ignorer. Tout en soulignant la différence entre les événements traumatiques de grande échelle tels la Shoah et ceux du domaine privé, Des théoriciennes comme Lee Gilmore, Susan Bryson et Laura Brown insistent sur la nécessité d'inclure au sein des études sur le trauma individuel et privé, souvent subi par les femmes, ce que Gilmore nomme dans son livre le trauma mineur, minoritized trauma, qui reste souvent secret. Enfin, il existe un paradoxe particulier ayant trait à l'écriture même du trauma subi. Depuis Freud et Janet, les chercheurs dans ce domaine s'accordent pour réitérer l'importance de la narration de l'événement traumatique au sein de ce que Cathy Carruth dénomme un récit significatif. En effet, d'après ces théoriciens, le sujet ne saurait se remettre de son trauma, dans la plupart des cas, que par l'emploi du langage ou des arts visuels et de la narration, l'objet du trauma devenant ainsi le sujet de son histoire. Si le trauma se situe au-delà des mots, il faut néanmoins trouver les moyens pour le dire et que cette histoire soit entendue par un public réceptif et compréhensif. Comme le constatent Shoshana Feldman et Dori Loeb dans leur étude du film Shoah de Claude Lanzmann, la nécessité du témoignage résulte de l'impossibilité du témoignage. Il existe donc toute une rhétorique qui exprime ce paradoxe du trauma, ce couple quasi oxymorique de l'impossibilité versus la nécessité ou la possibilité de dire le trauma. Il importe pourtant de remarquer qu'il existe une grande quantité de récits littéraires et de témoignages sur le trauma allant de Charlotte Delbault à Annie Ernaux. L'existence de représentations verbales et visuelles multiples de ces expériences traumatiques signifie qu'elles ne sont pas absolument indicibles, unspeakable dans les deux sens du terme anglais, à la différence de ce qui laisse entendre les oxymores typiques. Cela m'amène à un point crucial, à savoir de quels moyens discursifs, linguistiques, rhétoriques et énonciatifs dispose-t-on pour mieux représenter l'excès et la souffrance du trauma. Aussi difficile la narration du trauma soit-elle, elle demeure absolument essentielle à la guérison, même partielle de la victime, selon les théoriciens, puisque le récit du trauma aide la victime à exercer un contrôle plus grand sur ses événements traumatiques et d'autres symptômes dérangeants, à mieux maîtriser son environnement et à rétablir son rapport avec l'humanité. Il permet aussi à la victime d'intégrer cet épisode dérangeant dans sa vie, avant et après l'incident, et à devenir un sujet actif au lieu d'être un objet passif de violence. Pour construire le récit traumatique, de nombreux théoriciens constatent la nécessité de la transposition artistique du trauma, notant la part non négligeable de la fiction et des procédés littéraires comme des trous, une temporalité non chronologique, un jeu avec des genres littéraires, l'usage fréquent de métaphores et d'autres figures. À cet égard, Lee Gilmore parle du sujet lyrique du trauma, qui ne vise pas tellement la reconstitution mimétique de l'expérience douloureuse que la représentation poétique plus fidèle, cette dernière, au traumatisme. Ce sujet lyrique du trauma se manifeste dans ce récit autofictif intitulé simplement « Petite » de Geneviève Brisac. La narratrice raconte une trentaine d'années après, donc avec un grand recul, les événements douloureux de sa propre lutte contre l'anorexie, maladie dont elle a souffert pendant 3 ans durant son adolescence et dont elle a enfin réussi à guérir. Perturbée par des relations très distantes avec ses parents, poussée par un désir vorace d'être aimée, l'héroïne décide d'assumer le contrôle de son destin à travers son corps, par le refus de la nourriture. Mais la maladie, enfin, finit par prendre le dessus et la fille dangereusement malade est devenue dangereusement maigre, est envoyée en clinique psychiatrique et ensuite dans différentes maisons d'accueil, avant de rencontrer dans sa famille des personnes capables de lui donner de l'amour. C'est le grand-père, en fait, qui joue le rôle principal. Le texte aussi entre l'emploi des pronoms « je », dont le référent est tantôt la petite, tantôt la narratrice adulte, et « elle », utilisée pour renvoyer la jeune protagoniste. Puis, une oscillation analogue se voit sur le plan onomastique du récit. Si le surnom « Nook » fait référence à la jeune fille d'autrefois, le prénom Geneviève renvoie à la fois à l'anorexique adolescente et à l'auteur actuel, selon de cette façon le pacte autobiographique du texte. Les effets de la lutte anorexique inscrits sur le corps au moment de l'énoncé trouvent leur expression dans l'énonciation autobiographique rétrospective, dans une syntaxe sans gras, où figurent souvent des constructions parataxiques dans un certain délestage lexical, accompagné parfois d'un vocabulaire enfantin, ainsi que dans de nombreuses figures rhétoriques. Par moments, on dirait que le style du texte et le physique de la narratrice visent un dessèchement commun. Mais la mise en texte de cette souffrance corporelle n'a rien d'anodin. Pour Brizac, raconter cette histoire dysphorique, c'est devenir agent, c'est agir sur sa propre vie. Or, cette narration de la douleur affective et corporelle l'aide à la cerner, à la comprendre, à l'examiner, tout en revoyant le chemin difficile qu'elle a parcouru pour devenir sujet. De plus, le récit fonctionne en tant que témoignage, mettant en lumière les aspects noirs, honteux, cachés de cette maladie. Ses symptômes, ses effets et la maladie qui la sous-tend sont révélés par chaque comparaison, chaque énumération, chaque synecdoque et chaque champ lexical soigneusement employé par l'auteur. Le style squelettique du récit se caractérise par l'emploi de phrases simples, aptes à rendre l'état d'esprit d'une fille de 12 ans. Ou s'agit-il plutôt d'une hésitation à tout dire, d'une peur de faire face aux horreurs du passé, ou d'une crainte de ne pas trouver les mots justes pour traduire le corps en discours, comme ce commentaire métatextuel de Lascaux. Je cite, « Je suis le chemin de ces années à tâtons. Ce sont mes petites années noires. » En écrivant ces lignes, alors que presque 30 ans ont passé, j'ai peur. Je le fais parcimonieusement, avec une prudence excessive. Je le fais parce qu'il me semble que c'est nécessaire. On remarque l'occurrence de maintes phrases courtes et d'autres successives ayant une structure simple où le syntagme de base sujet-verbe-complément domine et encore d'autres dépourvues de chair et réduites aux os. Dans un passage révélateur, par exemple, les activités de la narratrice se réduisent aux seuls infinitifs, toute trace du sujet lui-même ayant disparu du texte. Elle a maintenant une vie remplie d'occupations secrètes. Marcher dans Paris au gré des cafés, nourrir sa sœur à outrance, manger des bonbons et vomir les repas qu'on lui impose. Dans ces dernières phrases, le style minceur, dépourvu du sujet « je » ou « elle », pronoms qui sont absents mais entendus, va de pair avec le corps réduit. Et cette réduction discursive se poursuit par l'emploi d'une synecdoque principale, celle de la bouche. Cette partie du corps hautement signifiante par laquelle l'ingestion s'effectue. C'est justement par la bouche qu'on se nourrit, qu'on grossit, et c'est la bouche qui fait figure de frontière ici, divisant l'intérieur de l'extérieur du corps. Et cette figure revient à quelques reprises dans le texte, et la narratrice s'en sert pour décrire son propre état diminué. Je cite, « Nuque vomit tout, les rivières se mêlent. Jeûner devient un esclavage. Elle est un esprit qui marche. Elle est une bouche immense. Elle n'est plus qu'une bouche. » La bouche, qui prend la place ici de tout le corps, de tout son être en fait, fait office de figure double dans ce passage. Elle indique autant la minceur du sujet anorexique, il ne reste plus que la bouche, tellement le corps est réduit, que la grosseur, voire l'importance de la bouche, de la bouffe, bref, l'obsession avec la nourriture. En fait, nous n'est plus que cela, ce que l'expression n'est plus qu'une bouche exprime. Tous les autres aspects de sa vie ayant été abandonnés, l'immensité de l'anorexie, de cette maladie, qu'il a diminuée à une bouche pourtant gigantesque, prévaut. Cette bouche béante constitue une image paradoxale qui réunit l'opposition incompatible de la corpulence, la bouche immense, et de la minceur, toute la personne résumée en une seule bouche. L'énumération, quant à elle, ne semble pas de prime abord appartenir au même registre de minceur et de privation que communiquent les autres figures et constructions discursives dans le texte. Or, l'énumération ajoute de la chair aux os du texte, normalement. Elle consiste à étirer un syntagme en multipliant un de ses éléments constitutifs. Bref, elle est une figure de plénitude. Mais c'est exactement dans son excès que l'énumération précise ce dont le sujet anorexique se prive, rejoignant ainsi la dichotomie paradoxale de la réduction-expansion propre à l'anorexie et ici propre au texte lui-même. Tantôt une éthique de réduction, tantôt un mouvement vers la plénitude, l'anorexie vise un élargissement intellectuel, l'accent sur l'esprit, tout en amplifiant l'expérience sensuelle. Dans le récit de Brisac, l'énumération prend la forme de listes, principalement d'aliments, mais aussi d'instruments pour écrire et d'histoires tirées des livres lus. Les listes où s'énoncent divers types de nourriture s'inscrivent dans l'opposition entre l'accumulation et le manque, comme il est souvent question d'énumérer ce que Nook ne mangera effectivement pas. J'ai éliminé les pâtes, les pommes de terre, le riz, le sucre, le pain, la confiture, les gâteaux évidemment, le camembert et les glaces. Ce passage l'illustre bien, c'est paradoxalement par l'ampleur de l'énumération des aliments coupés que le manque et la maigreur textuelle et corporelle résultante s'expriment. La plénitude textuelle laisse donc prévoir la minceur corporelle future. Dans la honte, Annie Ernaux procède autrement, dans la rédaction de son histoire de violence familiale. On le sait, la honte est un thème récurrent dans toute son œuvre, mais elle est l'objet d'une attention particulière dans le texte éponyme qui se construit autour d'un seul incident survenu lors de son enfance. Le dimanche 15 juin 1952, lorsque l'écrivaine avait 12 ans, son père a failli tuer sa mère avec une serpe à couper le bois. En entendant sa mère hurler « Ma fille !», l'enfant s'est précipité à la cave où son père tenait sa mère d'une main et la serpe de l'autre. Le texte contient ici une ellipse, comme les souvenirs suivants de l'auteur sont d'abord celui des trois membres de la famille assis à la table dans la cuisine, et puis ensuite celui de ses propres sanglots interminables. Donc la narration de cet événement hautement traumatique n'occupe en fait que les trois premières pages du récit. Par la suite, le texte comporte beaucoup de détails sur le contexte social de l'enfance de l'auteur. En effet, bon nombre de pages sont consacrées à l'exposition des mœurs et des croyances religieuses de l'enfance vécue dans cette petite ville, avec un accent sur les effets de la pauvreté sur la vie de la famille. Alors, lors de sa tentative de se remémorer l'événement horrifique, une quarantaine d'années plus tard, notant encore une fois un recul assez important, Ernaux en dissèque le contexte social en même temps qu'elle en évite les aspects brutaux, une fois l'exposition initiale terminée, dans une quête désespérée d'explications sociologiques sous-tendant l'incident et les blessures psychologiques durables qu'il lui a infligées. Ernaux aussi se sert d'un certain nombre de stratégies discursives pour raconter ce trauma et cette honte, notamment le discours métatextuel, la répétition discursive, la citation et le cliché, les références intertextuelles et la description de sa recherche de traces matérielles entourant la scène de violence, articles de journaux retrouvés dans les archives, emploi de photos, etc. De tous ces procédés, sur les deux premiers, en l'occurrence le discours métatextuel et la répétition discursive, sous la forme de la citation que je vais m'attarder brièvement avant de conclure, pour dégager l'apport du registre métatextuel et des paroles réitérées au discours du trauma et de la honte. Séparé parfois du récit principal par des parenthèses, le discours métatextuel occupe une si grande place dans ce récit qu'on est aussi constamment entre la narration de l'histoire elle-même et l'histoire de la narration de l'histoire. Ces passages métatextuels ont des fonctions différentes et importantes car ils permettent à Ernaux d'agir sur son propre geste discursif de narrer le trauma, d'y réfléchir même sur le plan énonciatif. La première fonction est celle de l'explication. Ernaux précise la façon dont elle procède, à savoir en tant qu'ethnologue d'elle-même. Ou bien elle résume ce qu'elle a déjà écrit dans cette quête scripturale d'une compréhension sociologique de ce qu'elle appelle la scène. J'ai mis au jour les codes et les règles des cercles où j'étais enfermée. J'ai répertorié les langages qui me traversaient et constitué ma perception de moi-même et du monde. Nulle part il n'y avait de place pour la scène du dimanche de juin. Ces passages suivent les descriptions détaillées de son milieu, de son école et de sa petite ville. Il sert, ce dernier passage, à accentuer le trauma de la scène par la mention du non-dit, l'épisode traumatique, ce qui a effectivement été omis complètement de ces nombreuses pages consacrées à la recherche sociologique de compréhension. La narration du trauma et de la honte joue-t-elle, on peut se poser la question, effectivement le rôle thérapeutique qu'on lui attribue, malgré le doute que ce passage laisse planer? Cette fonction explicative du discours métatextuel se voit également ailleurs dans le texte où la narratrice emploie ce discours pour spécifier le but de sa narration. Elle dit « me servir de ces mots dont certains exercent encore sur moi leur pesanteur pour décomposer et remonter autour de la scène du dimanche de juin le texte du monde où j'ai eu 12 ans et cru devenir folle. Ce faisant, je vise peut-être à dissoudre la scène indicible de mes 12 ans dans la généralité des lois et du langage. » Dans cet extrait, on voit que les mots décrivent les mots utilisés pour rendre ce que les mots n'arrivent pas à dire. De cette manière, la recherche des mots aptes à dire l'indicible devient elle-même une partie intégrante du témoignage du trauma. Après les trois premières pages consacrées à la scène traumatique, vous avez peut-être lu le texte, d'autres commentaires métatextuels accentuent le caractère énigmatique de l'événement, qui résiste à l'explication et à la signification. Elle dit « L'avoir mise en mots, la scène, n'a rien changé à son absence de signification. Elle est toujours ce qu'elle était, a été depuis 52, une chose de folie et de mort. » Si l'auteur a enfin réussi à raconter cet incident extrêmement perturbateur, un acte différé pendant 43 ans, elle a toujours du mal à le comprendre de façon satisfaisante. Plutôt que de proclamer une guérison miraculeuse et définitive du trauma, le registre métatextuel désigne de nouveau ses effets interminables, leur enracinement dans la psyché, mettant en doute la possible réussite de la scriptothérapie. La seule narration de la scène ne semble pas suffire à la rendre compréhensible, d'où la nécessité, chez Ernaud, de ces interruptions fréquentes d'ordre métatextuel, d'où ces longues digressions sur les traces matérielles autour de l'événement lui-même. Enfin, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, le discours métatextuel inscrit et engendre une méta-honte, une honte au second degré. Non seulement Ernaud a-t-elle honte d'avoir eu honte de ses parents et de son milieu ouvrier, mais elle a également honte du livre, même de la honte, qu'elle est en train d'écrire. Ainsi, anticipe-t-elle la réaction possible des futurs lecteurs de son texte. Elle dit « J'ai toujours eu envie d'écrire des livres dont il me soit impossible de parler, qui rendent le regard d'autrui insoutenable. Mais quelle honte pourrait m'apporter l'écriture d'un livre qui soit à la hauteur de ce que j'ai éprouvé dans ma 12e année ?» Au caractère reporté, différé de la compréhension du trauma, correspond donc une honte prévue, anticipée, qui s'ajoute à la honte sur laquelle elle écrit. Et ce caractère superposé du métadiscours sur la honte convient bien à la nature même de cette émotion plurielle, dotée de multiples facettes et qualifiée par Vincent de Gaulle-Jacques de méta-sentiment, de véritables conglomérats d'émotions, de sensations liées les uns aux autres, où se mêlent rage, culpabilité, amour, haine, colère, agressivité, sidération, peur, une accumulation de sentiments qui s'empilent les uns sur les autres. Autre procédé saillant dont Ernaud se sert pour écrire ce nœud serré entre trauma et honte, la citation relève de la répétition discursive. À l'instar d'autres œuvres d'Annie Ernaux, on pense à l'événement ou à Passion simple, la honte comprend diverses sortes de répétitions discursives, y compris l'autocitation, la citation de certains clichés, les manchettes de journaux, les discours de ses parents et les discours d'autres personnes anonymes, de même que des références intertextuelles. L'emploi que fait Ernaux de cette répétition discursive rappelle d'ailleurs les écrits de Judith Butler sur le statut d'agent, conçu comme le résultat d'une répétition discursive comportant une variation, une différence susceptible d'engendrer une nouvelle signification. La citation, ce recyclage d'un énoncé déjà dit, repositionné dans un nouveau contexte, voilà ce qui pourrait conférer au sujet parlant ou écrivant le statut d'agent, lui permettant d'agir sur le discours cité et aussi sur son contexte. Dans la honte, l'autocitation fonctionne justement de la façon proposée par Butler. Tout de suite après la description de la fameuse scène au début du texte, Ernaux révèle les réactions de ses parents à l'événement épouvantable. Je cite, « Mon père répétait toujours, « Pourquoi tu pleures? Je ne t'ai rien fait à toi. » Je me rappelle une phrase que j'ai eue, tu vas me faire gagner malheur. » Ernaux l'explique dans une note. L'expression « gagner malheur » provenant de son patois normand signifie, je cite, « devenir fou et malheureux pour toujours à la suite d'un effroi ». En plus d'évoquer donc le contexte originaire de la répétition paternelle, où l'énoncé répété du père vise à effacer sa propre culpabilité face à la souffrance de sa fille, Ernaux cite intégralement son propre énoncé du passé pour nous exprimer sa douleur dans le contexte présent de la narration, de l'énonciation narrative. Et le choix de l'expression, dans ce registre auquel se rattachent des connotations de ses origines ouvrières et de son enfance en province, est hautement significatif. Au lieu de simplement paraphraser des années plus tard en français standard, Ernaux retrouve sa voix d'enfance. Cette même expression, d'ailleurs, mise en italique à chaque occurrence, revient deux autres fois dans la honte. Ainsi, cette citation est-elle reprise encore? Et la citation s'avère à deux occasions l'objet de remarques métatextuelles, employées effectivement pour commenter l'emploi de la citation et du patois. Elle dit, « Dire, il s'agit d'un traumatisme familial, où les dieux de l'enfance sont tombés ce jour-là, n'entend pas une scène que seule l'expression qui m'est venue alors pouvait rendre, gagner malheur. » Ernaux rejette donc ces deux clichés, mis entre guillemets d'ailleurs, dans le texte pour faire ressortir leur caractère banal et préfabriqué, pour expliquer son choix de l'expression normande. La citation répétée, la citation de la citation, et ensuite le discours métatextuel commentant ce procédé des citations, voilà autant de couches textuelles complexes qui se superposent pour mettre en relief le dilemme énonciatif d'Ernaux, à savoir comment trouver les mots aptes à dire l'indicible, comment rendre la charge affective et les effets nuisibles de l'expérience traumatique. Donc je conclue. Chez Ernaux comme chez Brisac, la narration du trauma personnel occupe des fonctions thérapeutiques et éthiques. Dans Petite, les figures rhétoriques, l'énumération et le style squelettique permettent à Brisac de représenter et de faire relire son propre corps anorexique d'autrefois. Certes, ce corps était déjà, au moment de la maladie, un texte hautement signifiant, comme les tout corps anorexiques. Maud Ellman, qui est une théoricienne qui travaille sur l'anorexie, nous dit « The starving body is itself a text. The living dossier of its discontents. » En transcrivant en mots les codes corporels du passé, Brisac crée un texte autofictif à l'image du corps anorexique. Raconter cette pénible histoire dans ce geste autofictif, n'est-ce pas la rendre publique, l'offrir aux autres? En ce sens, le texte autofictif dans son entier constitue un exemplum. Un récit qui dévoile avec finesse les paradoxes et les écueils de cette maladie. Présenter ce don aux autres, c'est leur donner un témoignage poignant, c'est agir en fonction d'un souci éthique axé sur le sort des femmes. En même temps, La rédaction du texte permet à Brissac, 30 ans plus tard, de tourner la page. D'une manière analogue, la narration du récit de violence familiale chez Arnaud aide l'auteur à maîtriser le souvenir traumatique et la honte qui en résulte. Selon Susan Bryson, dire le souvenir traumatique, c'est le transformer. À l'intérieur de cet acte scriptural global que constitue le texte de la honte, se trouvent de nombreuses stratégies discursives, telles la métatextualité et la citation, ces fils textuels qui défont en quelque sorte le nœud du trauma et de la honte. Mais le récit d'Ernaud ne consiste pas uniquement en la seule représentation de cet acte thérapeutique, car il l'incarne également, en se munant d'une dimension performative. En effet, les nombreuses stratégies énonciatives différentes sont elles-mêmes des actions, formant un fer textuel qui nous offre la promesse d'une écriture engagée qui revisite les blessures du passé pour rendre vivable le présent et l'avenir. Sans aller jusqu'à prétendre que ce récit est le signe de la résolution, voire la guérison totale de l'expérience douloureuse, l'on pourrait néanmoins constater qu'il en permet sa reconfiguration. Rendre public ce trauma secret et intime, c'est passer de la sphère individuelle et de la honte cachée, de la violence familiale, au domaine collectif des lecteurs et des lectrices. C'est aussi faire un geste éthique. Merci de votre attention.
Merci beaucoup, Barbara, pour cette réflexion.